D'abord, elle a goûté la pomme, même que ce n'était pas bon. Il n'y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison. Eh bien, non. Ça l'a pourtant arrangé, l'homme. C'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme jusqu'au trognon et vite fait.
Oui, mais c'est la faute à Ève. Il n'a rien fait, lui, Adam. Il n'a pas dit « Femme, je crève, rien à se mettre sous la dent ». D'ailleurs, c'était pas terrible. Même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam, il est mal tombé.
Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements « Manque une pomme à l'inventaire, qui l'a volée ?»« C'est toi, Adam ?» Ève s'avança, fanfaronne et dit « Mais non, papa, c'est moi. Mais d'ailleurs, elle n'était pas bonne. Faudra laisser mûrir, je crois. »
Alors c'est la faute à Ève. S'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève. Il n'avait rien sur le dos. Ève a dit « Attends, je cueille des fleurs, c'est trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. »
Après ça, quelle triste affaire. Dieu leur a dit « Faut travailler. » Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Ève alors a dit « J'ai trouvé. » Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps.
C'est vraiment la faute à Ève si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve. Elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée.
Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule, avec trois bons hommes à la fois.
Là, c'est bien la faute à Ève. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon. Lui faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là.
En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. Qu'on se repasse et puis qui dure. Elle a vraiment tout fait rater. Nous, les filles, on est dégueulasses. Paraît que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça se passe par chez nous, ça devient pareil.
Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais qu'est-ce qu'il s'imagine? J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable, il ne l'est pas.
Ah, et oubliez les belles voitures et le fric. La retraite et les flics, la politique épique. Oubliez la sécurité sociale, les allocations familiales, la promotion idéale. Je vois cette ronde qui tourne autour de nous. Moi, je veux être libre par-dessus tout. Je veux briser mes chaînes, et même si c'est raté, pouvoir trouver le livre qui dit la vérité. Et oublier les impôts, les militaires, les rubans aux boutonnières, la mode avec ses critères. projets utopiques ou fou langage. Philanthropique.
Canal Sud, 92.2, Le Monde et tout ce qui arrive. Je regarde par la fenêtre de mon bureau et je vois quelque chose, quelques images que j'aurais aimé ne pas voir. Je regarde par la fenêtre de mon bureau, je regarde cette cour de récréation et je repense aux années 70, à ce Paris pascalien. Je regarde par la fenêtre de mon bureau, cette cour de récréation. Et je me répète que dans le Paris pascalien, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'il va advenir. Mais que pour soi, à un moment pour soi, tout le temps pour soi, et même qu'aujourd'hui pour soi, l'égalité sexuelle ne se discute pas. regarde par la fenêtre, la cour de récréation, et j'y vois toujours la même chose. Les garçons au centre, avec leur dérisoire sport d'équipe. Et sur les bords, les filles. Ça s'appelle savamment l'inégalité spatiale sexuée. Vous en avez des pages et des pages dans les études du genre ou pas. Mais ça ne change rien. Parce que 2/3 des équipements publics, au minimum, sont utilisés par des hommes. Prenons un exemple. Devant une telle inégalité de l'utilisation de l'espace, de cette cour de récréation, l'équipe enseignante a prévu des jours où les filles auraient l'initiative de la gestion des équipements sportifs, des ballons, des différents jeux, et d'autres où ce seraient les garçons. Le jour des garçons, les garçons jouent. Aucune fille n'est invitée sur les espaces occupés habituellement par les garçons. Le jour des filles, dans un premier temps, celles-ci sont dans des attitudes coopératrices. Les garçons peuvent jouer, mais avec elles. Jour où de mon bureau, je vois ce qui devrait être. Sauf que ces jours-là, les garçons exagèrent, leur piquent le ballon, sont particulièrement brutaux ou dérogent sans arrêt à la règle. Donc, dans un second temps, les filles décident que les garçons ne jouent plus et qu'elles usent de leur jour comme elles l'entendent. Les garçons essaient de déroger tout le temps à la règle et les enseignants restent intraitables sur le mode opératoire et interviennent à tout débordement des garçons. Je ne crois pas en une nature féminine, comme le décrit Bérénice Levé en exergue d'un livret sur le genre. Enfin, plutôt contre le genre. Sur un moteur de recherche, vous tapez Vigie, sans E, bien sûr, tiret gender. Donc, Vigie, sans E, tiret gender. Donc, cette citation de Bérénice Levé. Si le souci de l'apparence, de la beauté, l'amour, la maternité demeurent les prérogatives de la femme, ce n'est pas par aliénation à une société patriarcale, machiste, qui la rendrait étrangère à elle-même, mais au contraire parce qu'elle s'y reconnaît, se paraît, plaire, séduire, aimer, donner la vie, continue à faire sens pour la condition féminine. Bérénice Levé. La théorie du genre. Alors, ça, c'est essentialiste. Je n'aime pas la chanson de Renaud sur les femmes, sauf Madame Thatcher. Parce que Thatcher, Condoleezza Rice, Lindsey Inglen sont bien des femmes. Et ce n'est pas l'être femme qui les prémunit de ne pas être des salopards. Et ça, ce n'est pas essentialiste. Simplement admettre, puisque les hommes et les femmes sont égaux en droit, que les femmes puissent faire les pires saloperies. On ne reconnaît pas l'égalité à quelqu'un parce que c'est... Un saint, une sainte en l'occurrence. Ce serait à la fois naïf et condescendant. Je regarde par la fenêtre, la cour de récréation, je repense à ce défi que je me suis lancé dans les années 70. Et je crois qu'il voulait dire autre chose qu'une simple égalité sexuelle. Il s'est transformé en une méfiance généralisée, bien avant d'avoir lu Foucault. Une méfiance généralisée contre toute forme de pouvoir, que ce soit au niveau d'une administration, d'une banque, d'un pays ou d'une organisation militante, même microscopique. Je regarde par la fenêtre de mon bureau et je me dis, ne jamais tomber amoureux du pouvoir. Jamais. Jamais. Les pires choses se font au nom de cet amour irraisonné et irraisonnable. Par contre, tomber amoureux d'une femme, d'un homme, ou d'un autre, ou d'une autre. Content que le lecteur studio d'électrice en action repasse à Canal Sud, ça pourrait devenir une habitude. Et ce soir, propose ce choix de texte sur les femmes. Ça n'a pas de titre. Nous avons oublié. Alors je cherche, mais je suis sûr que ça pourrait être un truc du genre, bien au fond de mon lit, je l'entends qui n'arrive pas à redémarrer la 4L. Ou pour oublier, comme le dit la chanson, ou bon, ce sera sans doute.
La retina è solo carne para el empresario. Retosando con la ambigüedad. El desfile de banderas enfermizas me ha comenzado. Adultera nuestra imagen, nos exhibe sin respeto. Un cuerpo de para el perfume sin cerebro de la mujer objeto. Ahora y excitante, sugestiva, todo por un diamante. No soy una arena que puedas utilizar. Ni tampoco una muñeca, nunca me podrás tomar. No podrás utilizarme. Si cree muy gracioso, piensa que somos sujetos y habla de nosotras como trofeos. Ya no aguanto ni un minuto más. No controlo mi rodilla, pero el cerdo no me deja salir. Carne fresca en compraventa, sexo subliminal. Pasear la exuberancia como toda credencial. Traguito mi cómica, la patética moral. No soy una arena que puedas utilizar. Ni tampoco una muñeca, nunca me podrás.
Il s'en allait faire des enfants ailleurs, Marie-Ange Guillaume. Il y a de la neige partout, et cette année-là, la chute des températures bat les records saisonniers. Il est brun, avec dans les yeux le reflet de toute cette blancheur. Il croque des carottes crues en écoutant « Salut les copains ». « C'est qui cette fille ?» s'informe-t-il d'une voix flémarde. « C'est moi. » Il m'apprend à tenir debout sur mes skis. Quand il n'y a plus de neige, on s'aime par lettres. Les siennes viennent de Nantes et je guette les mots d'amour dans sa petite écriture serrée. Le reste ne m'intéresse guère. On se voit en cachette et dans l'hiver, on passe la journée entière à s'embrasser au bord de la Loire qui coule chez moi et chez lui. L'eau est grise et l'herbe gelée. Sa bouche est le seul point chaud du paysage. On parle à peine. Quand on se quitte, c'est au bout du pont métallique qui traverse la Loire et je reviens plusieurs fois sur mes pas. Il me regarde partir et revenir, on pleure et il rate son train, je l'apprendrai dans la lettre suivante. Un jour, il m'écrit qu'il bricole un avion miniature dans son salon. Je pâlis, je n'ai pas de salon. Quand on ne se verra plus en cachette, quand il viendra chez moi, il s'en apercevra forcément. Pour parer à cette humiliation, je romps brutalement, sans explication, très malheureuse et inflexible. C'était le premier.
Le premier. Si maintenant cet amour-là me revenait en pleine gueule, avec mes 16 ans, et sa main sur la mienne comme une étonnante brûlure, j'irais me coucher en rond avec un couinement de vieux chien perclus, je ramasserais mes pattes et mes oreilles, et je dirais non. Au fil des amours et des années, le muscle du cœur se met à deviner. Il sait que ça va faire mal, et il dit non. J'aurais aimé passer ma vie avec ce rongeur de carottes, pour la beauté de l'image, ne connaître qu'un corps, un rire unique et une seule tendresse, et ne jamais rien savoir de la liberté. Mais je n'avais pas de salon. Et aujourd'hui, si je compte mes amants sur mes doigts, il me manque une bonne douzaine de mains. Pourtant, je n'ai jamais collectionné. Pour collectionner, il faut un brin d'optimisme, il faut croire aux vertus de l'accumulation et du rangement. Je voulais seulement l'amour comme au ciné, cadré à mort, une fois qu'on a balancé les chutes à la poubelle. Je n'ai vécu que des chutes, avec entrain. On ne sait pas à l'avance qu'on s'est levé le matin pour aller tourner une chute.
Il n'y a rien d'autre dans la pièce que le lit. Il me fait l'amour beaucoup trop longtemps, mais je n'ose pas lui dire. Il parle toujours de m'emmener avec lui à la frontière de je ne sais plus quel pays en guerre. Cette idée ne m'enthousiasme pas, et des récits qu'il me fait, il me reste des images de barbelés. Il est très doux et solitaire, il n'aime pas ma bande de copains, il me plaît et je le fuis. 8 ans plus tard, il retrouve ma trace à Paris, dans la librairie où je travaille. Il arrive sans prévenir, comme s'il venait de me quitter, avec 2 crêpes au miel qui dégoulinent sur ses mains, sur la moquette et sur ma jupe. Il a envie de campagne, d'une maison avec une femme et des canards. Il dit tout ça très vite et me propose d'aller boire un verre. Je refuse. Quelques jours plus tard, encore triste d'avoir laissé partir assez froidement ce type qui m'a toujours touchée, je vois arriver un de nos anciens amis communs. Je dis quelque chose de gai et virevoltant du genre « Ben ça alors, tu parles d'un hasard? Je vais te donner l'adresse de ma mère pour Guy, au cas où il me chercherait dans 10 ans. » L'ami me répond que, justement, il est venu me parler de Guy. Et il ne sait plus comment me dire qu'il s'est tué, la carabine dans la bouche, après avoir fait le tour des gens qu'il aimait, pour voir.
Et les yeux des poissons sont en larmes. Départ du printemps. Les oiseaux crient. Et les yeux des poissons sont en larmes. Départ du printemps. Thank you.
Et un blazer bleu marine. Il enlève son blazer et le plie soigneusement. On fait l'amour à l'arrière de la quatrelle, devant ma maison. Après, bien au chaud dans mon lit, je l'entends qui n'arrive pas à redémarrer.
Il est grand, solide et maladroit. Il parle avec ses mains, mais il n'est pas bavard. On fait l'amour sur le bord de la Loire, sous une pluie fine et froide qu'il ne sent pas. Pour lui, c'est la première fois. Et pendant longtemps, il reconnaîtra l'amour à ce symptôme. Insensibilité totale à la pluie, à la neige, à la merde ambiante. Il me fait un cadeau. Des milliers de perles de bois anciennes, peintes et sculptées, en guirlande sur les murs de son atelier. C'est un cadeau intransportable. 20 ans plus tard, on se retrouve un soir de Noël, près de la Loire, toujours. On n'a pas changé. On rejoue la même pièce. Il se tait, je m'agite, je jacasse. Il me regarde, il boit de la bière. On n'entend que moi. Il rit de temps en temps, on s'en va. « À dans 20 ans, dit-il. » À nous retrouver si semblables, l'un en face de l'autre, je me demande si je quitte vraiment les gens ou s'ils restent là, invisibles au fond de ma poche, intacts et moi aussi.
Il a une truc, une caresse précise à un endroit précis du ventre qui rend folle n'importe quelle femme en 3 secondes. C'est infaillible, chirurgical et pour tout dire, humiliant.
Me dit « Viens là », me fait mal. Je tâte le terrain, j'ai le trac. « On ne se voit pas très souvent, non ?» me dit « C'est ça ou rien. » Il a une gueule de nordique et une sensibilité de tank.
Il est blond, il est étudiant. Il partage la chambre voisine avec un ami. Il a perdu sa clé et attend son ami, assis dans le couloir. Je lui propose ma clé qui n'ouvre que ma chambre, bien sûr. Il est brun, il est étudiant. Le blond lui a dit que j'avais la peau douce. Il fait semblant d'avoir perdu sa clé. Il m'amuse. Puis il me trouve très tendue sous ma peau douce et me prépare une tisane calmante à une époque où je carbure au Temesta comme un clodo au 12 degrés.
Il fait des phrases sur les mouettes. Le cri des mouettes, le vol des mouettes, les flots tumultueux sur lesquels tanguent les mouettes. Puis on se rapproche du sujet. Il fait des phrases sur son mauvais rapport au corps. Il a raison. Dès qu'il cesse de faire des phrases, il n'est plus bon à rien.
Un détail me rappelle vaguement quelque chose. Ces incisives qui se chevauchent. Je lui dis « On s'est déjà vu quelque part, non ?» Il m'informe avec jovialité qu'on a passé 8 jours ensemble, quelques années plus tôt. Il accumule les précisions susceptibles de faire remonter en moi un souvenir qui ne remonte pas. Il va s'effondrer. Tout à coup, une lueur. Je lui dis « Ah oui, ta femme s'appelle Françoise !»
Il caresse mes cheveux doucement. Il murmure et sourit, m'électrolyse, me contemple avec un calme souverain, me fait mariner. Dieu sait pourquoi il me fait penser aux meubles luisants, polis par les ans. Et puis un jour, brutalement, sévèrement, il me congédie sans raison véritable. D'instinct, en souvenir de sa mère, il se venge d'une femme qui ne lui a encore rien fait.
On s'aime dès les premiers mots, d'autre chose que d'amour. On fait l'amour quand même, en général dans une maison lointaine, pleine d'inconnus, de chats tigrés et de téléphones. Le matin, extrêmement sensible au froissement de l'air autour de nos gueules de bois, on avale des litres de café. On mange du poulet. Puis, on sort dans le jardin en automne pour rire un peu de nos grands sentiments et de nos tentatives de bons à rien. Mais ce qui reste au bout du compte, 15 ans après, c'est qu'on s'est aimé dès les premiers mots et qu'on ne s'est jamais lâché.
Il tâtonne à la recherche de ses lunettes. Il m'explique que, sans ses lunettes, il n'entend plus. Il retrouve ses lunettes, mais je n'ai rien à dire. Il en déduit que je suis une drôle de fille. Je réponds que lui aussi est un drôle de type. Très étonné, vivement intéressé, il me demande pourquoi. Je reste muette. Je disais ça pour meubler, je ne le trouve pas drôle.
C'est un gamin et je ne suis plus une gamine. On fait la course sur les quais de la Seine, on tire les sonnettes, on mange 6 glaces à la suite. Les cracheurs de feu l'amusent encore. Il est si facilement émerveillé que je me couvre peu à peu de poussière. On dort chez sa sœur. Le lendemain, il dit qu'il ne veut pas m'épouser tout de suite parce qu'il doit d'abord penser à sa carrière.
Il est trop mignon pour être vrai, trop tendre. On s'amuse trop bien ensemble. Il a une trop belle voiture avec laquelle il part vivre ailleurs. Il sort d'un grandiose chagrin d'amour et l'amour, il en a marre.
Jouir, cognement, laisser surgir d'insignifiants détails, tes convoitises, ta perversité, ton narcissisme, carnaval, je laisse surgir, ta prétention, je laisse surgir, ton ignorance, tes menaces, je laisse surgir, tes chiffres, je laisse surgir, tes lois, ta puanteur, ta nation, je laisse surgir, cognement ta masse, cognement tes sondages, cognement ton époque, je laisse surgir, ta niaiserie, je laisse surgir, ton espace vital, je laisse surgir, ta guerre, je laisse surgir, ton destin, le fruit de sans vie, tes qualités naturelles, je laisse surgir, ta domestication, ta soif, tes sacrifices, je laisse surgir, ton apathie, tes contraintes, tes pressions, je laisse surgir, tes frissons, tes optimisations, je laisse surgir, ta psychologie fragile, ton égoïsme désinvolte, ta micro-volonté hostile, ta routine irrationnelle, je laisse surgir, ta liberté servile, ta solidarité conflictuelle, je laisse surgir, ton indifférence obscène, ta possessivité, je laisse surgir, ton mimétisme, je laisse surgir, ta grande confusion, je laisse surgir, ton libre arbitre illusoire, tes groupes de pression, ta lutte des classes, ta classe dirigeante, je laisse surgir, ta viscosité, ton entropie, je laisse surgir, ta grandeur tartuffe, je laisse surgir, tes prototypes, tes héros, je laisse surgir, ta perpétuité, je laisse surgir. Ton idéal faiblard, je laisse surgir. Tes taux de rendement, tes révolutions, tes macérations, ta vulgarité, ta volatilité, je laisse surgir. Tes bidonvilles, je laisse surgir. Tes matraques, je laisse surgir. Tes cadavres, je laisse surgir. Ta tête, je la couperai. Ta bouche, je la couperai.
Breathing, breathing, breathing.
Le mari de Marie-Vonne était mon amant. Quelquefois, je m'en étonne encore maintenant. Au début, tout feu, tout braise, il était gentil. Quand il se mettait à l'aise, il refaisait le lit. Il me disait « Tu es belle !» Après comme avant. Il descendait la poubelle en repartant.
« Là, 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 petit bonhomme, comme on est bien élevé, c'est grâce à Marie-Vonne. » Il me l'avait caché. « Là, 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 petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma femme est une matrone, » il m'avait dit.
Le mari de Marie-Vonne était mon amant, mais il m'appela Bobonne au bout de pas longtemps. Puis je rencontrai sa femme qui me dit « Merci, depuis qu'il vous a dans l'âme, il ne vient plus ici. » Il m'avait dit « Marie-Vonne est un vrai boudin, toujours elle me cramponne et ça me dit rien. »
« Là, 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 petit bonhomme, comme on est mal élevé. Marie-Vonne est très mignonne, il me l'avait cachée. Là, 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 petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma maîtresse est une conne. »
Le mari de Marie-Vonne n'est plus mon amant. Comme il n'a trouvé personne, il est chez sa maman. Marie-Vonne et moi, on pense qu'on pourra bientôt se prendre un peu de vacances, un peu de repos. Mais voilà que Marie-Vonne m'apprend ce midi, sa belle-mère lui téléphone, elle vient aussi.
Là, 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 petit bonhomme, ça commence à se gâter. Il la prenait pour sa bonne, elle en a eu assez. Là, 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 petit bonhomme, comme on avait bien menti, ma mère est une gorgone, il avait dit.
Le mari de Marie-Vonne a pu se recaser. C'est Sophie qui lui redonne un peu de volupté. Au début, tout feu, tout braise, il sera gentil. Quand il se mettra à l'aise, il refera le lit, il lui dira « Tu es belle ». Après, comme avant, il descendra la poubelle en repartant.
Là, 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 petit bonhomme, mais ça ne va pas durer. Quand il lui dira « Bobonne », elle va se tirer. Moi, sa mère et Marie-Vonne, on l'a bien dit à Sophie. On t'attend, ma toute bonne, dans le midi.
Si longtemps ça recommence, on va se retrouver toute une colonie de vacances.
On va bien s'amuser.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Mes parents avaient un verger qui était leur grande fierté et qui prenait tout leur temps libre. Ils s'en occupaient tôt avant d'aller au travail, dès qu'ils en rentraient, et parfois même après le dîner. Nous en profitions pour nous fréquenter en cachette dans ma chambre. Je pouvais voir le verger de ma fenêtre. Je vérifiais l'avancée des travaux de jardinage de mes parents entre deux longs baisers. Les arbres étaient parfaitement alignés, presque rangés. Chaque arbre portait les fruits qui correspondaient à son nom, sans erreur possible, dans un ordre au cordeau, cerisier, pommier, abricotier, puis devant eux, poirier, figuier et prunier, et devant eux encore, tout près de ma fenêtre, les rangées des arbustes soutenus par des tuteurs et des fils de fer, les milliers de framboises, de myrtilles, de groseilles, parfumaient mes matins tardifs lorsque j'aérais ma chambre à la demande quotidienne et pressante de ma mère. Je me moquais de mes parents et de leur rigueur à toute épreuve. Ils auraient bien été capables de faire leur plantation par ordre alphabétique. Mais pendant que nous rions d'eux, à la faveur d'un câlin trop long, mon père nous a surpris, l'a chassé, m'a puni. Consigné dans ma chambre, en plein mois d'août, pensive à ma fenêtre, je rêvassais en regardant le verger. J'espérais qu'il viendrait me délivrer. Il est venu la nuit suivante. J'ai entendu des bruits de branches. Il faisait très chaud. Cela m'avait donné un prétexte pour laisser la fenêtre ouverte. Je le voyais trafiquer dans les arbres torse nu. Il n'était pas seul. Il m'a fait signe de me recoucher en m'envoyant un baiser de loin. Déçue, je me suis remise au lit. Aux premières lueurs du matin, je me suis précipitée à la fenêtre. Mon père était déjà au verger, immobilisé devant la métamorphose de ses fruitiers. Au pêcher, il y avait des poires, au poirier des abricots, lesquels avaient été remplacés par des prunes, au prunier se balançaient des figues fraîches. Il avait travaillé à sa petite vengeance toute la nuit, avec l'aide de ses nombreux copains. Ils avaient cueilli tous les fruits et, chaque queue patiemment nouée à du fil de pêche, ils les avaient changés de place.
Je mange, je mange, je mange, je mange. Je mange, je mange, je mange, je mange, je mange, je mange, toute la vie je mange, 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 maman, 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 ma maman, la maman de maman, la maman de ma maman. La maman, de 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 ma maman.
Mon compagnon est accordéoniste. Il fait les bals, les mariages, les anniversaires, les départs en retraite, et parfois il accompagne les parlottes de soirées culturelles, lectures, poésie, découverte du terroir. Je l'ai rencontré au mariage de ma meilleure amie. Je m'ennuyais tellement que je m'étais mise à regarder les gens. J'ai toujours un livre dans mon sac, mais j'avais peur de paraître mal polie en le sortant. Alors je regardais les gens. Ils étaient tous si serrés, engoncés. Un seul ouvrait les bras, et c'était lui. Pour faire de la musique, il embrassait l'air, il accueillait le vide, il respirait à grands gestes. Je suis tombée dans l'ouverture de ses bras. Au sens propre, j'ai rempli ce creux, cette soufflerie, sa poitrine musicale. Je voulais entendre les bruits de son large cœur, désordonné par le désir, rassemblé par l'accordéon.
Et moi, c'est une histoire d'attente depuis le début. C'est toujours moi qui attends. Je m'y suis habituée. Elle est toujours en retard. J'arrive à l'heure car je ne sais jamais de combien va être son retard. Parfois quelques minutes seulement, parfois plus, beaucoup, beaucoup plus. J'arrive à notre rendez-vous et je me dis « Maintenant, le retard va commencer. » Je lis, j'ai toujours des livres pour son retard. Mais c'est plus fort que moi, au bout de quelques chapitres, je m'inquiète déjà. Je m'inquiète pendant je ne sais combien de pages.
Il avait entamé sa vie d'adulte en mourant, comme beaucoup d'adolescents, mais lui n'avait jamais cessé. Il mourait souvent, tous les 2-3 ans, et rien ni personne n'avait jamais pu l'en empêcher. Il se ratait, se relevait, il reprenait goût à tout, rencontrait une nouvelle compagne. Parfois c'était la même, mais pour lui c'était une autre. Tout était toujours pour lui un renouveau. Il était alors, à chaque nouvelle vie, ouvertement joyeux. J'ai été une de ses nouvelles compagnes, la dernière. Pendant ses renaissances, il avait même eu des enfants, dont un avec moi. Il était vivant. Et puis, sans que rien d'abord ne le laisse entrevoir, il mourait. Ses 4 enfants étaient en bonne santé, il l'aimait, je l'aimais, il avait un bon travail, tout allait bien, et soudain, voilà, il recommençait à mourir. Avant de renaître, comme neuf. On aurait presque pu croire qu'il changeait de peau, qu'il muait, s'il n'y avait eu toutes ces cicatrices, les traces de ses morts, à chaque fois plus nombreuses et profondes. Il n'avait jamais pris de médicaments, il mourait toujours violemment. Il mourait à la corde, à la noyade, au fusil de chasse. L'avant-dernière fois avait emporté tout le bas de son visage. Et malgré tout, il s'était relevé souriant, souriant sans menton.
Je l'ai quitté parce que pour lui, seules les mathématiques comptaient. Oui, compter, c'est le mot. Et moi, je n'étais rien, qui ne savais même pas mes tables par cœur. Il pensait que les mathématiques sont à l'origine du monde, de son ordre, de sa beauté. Il me parlait de formules mathématiques qui narguent l'impossible par de simples changements de point de vue. Rien ne pouvait leur échapper, ni la relativité générale, ni la mécanique quantique, ni la chimie, ni l'informatique, ni la chimie, ni la biologie ne pouvaient s'en affranchir. Je le prenais dans mes bras et lui disais « Tu sais, je suis là ». Il me répondait « Sans elle, ma belle, tu n'existerais pas. Ni toi, ni tes paroles, tu n'existerais même pas comme simple éventualité théorique. Rien n'existerait, tu comprends? Et ni la structure en double hélice de l'ADN, ni la topologie de l'univers, ni la géométrie d'une protéine, d'un simple ballon de foot ou d'une fugitive bulle de savon n'auraient le moindre sens sans elle. » D'elles viennent notre espace, notre temps, toutes nos émotions et nos sentiments. Je lui demandais comment il pouvait en être si sûr. Il souriait. Tu ne comprends pas. Les maths ne sont pas une invention de l'homme. Seule la manière que l'humanité a d'exprimer ce qu'elle en a compris, si peu, est une invention de l'homme. Les maths préexistent à l'homme. L'homme se doit de respecter les rigoureux commandements de la logique. Quand il ne parvient pas à comprendre, il tente de conjecturer, d'imaginer. C'est ce qu'il a dû faire, jusqu'à trouver une explication mathématique à mon départ. Une équation implacable.
I got 6, that's all there is.
6 times 1, 6, 1 times 6.
He got 6, I put mine with his, and we got 12.
6 times 2 is 12, 2 times 6.
I got 6, you got 6, she got 6. We got 18 all together, if we can get them all together.
6 times 3 is 18, 3 times 6.
I got 6 in my right hand, 6 in my left hand, 6 on my head. You got 6 in your pocket, put them all on the floor, that's 24.
6 times 4 is 24, 4 times 6.
I got 6 red hens, they laid 5 eggs each.
All the eggs hatched out in the yard was full of 30 little chicks.
6 times 5 is 30, 5 times 6.
One fine day, they all started in delay. I got 36 eggs and I took them in the house and I put them in boxes. 6 eggs each, 6 boxes.
Oh, 6 times 6 is 36, 6 times 6.
Going to the candy store, I take 6 of these and 6 of those and 6 of them and 6 of the others. And also 6 of the red, 6 of the white, and 6 of the blue. I put them in one bag, that's 42.
6 times 7 is 42.
7 times 6.
Oh, I'm throwing down 10, making up 6. I made 8 chicks and then missed the league.
6 times 8 is 48. 8 times 6. 9 hungry men had $6 each.
Oh.
And that's 54 bucks, but they were out of luck. 54 bucks won't buy dinner downtown, not for 9. Then there were 6 hungry men. They had $9 each.
Yeah.
And they went downtown, and the waiter said, sit down. Oh, it makes a big difference how you spread it around.
6 times 9 is 54, 9 times 6.
See that prince over there, huh?
Yeah.
The one with the fuzzy hair. He's got 6 rings on every finger. He don't wash no dishes, not with 60 diamonds.
6 times 10 is 60, 10 times 6.
He brought along 11 camels. Ain't that nice?
Ain't that nice?
Each one loaded down with 6 casks of oil and spices. Brought quite a price.
6 times 11 is 66, 11 times 6.
He had 12 wives. He better be rich. Each one had 6 kids, 6 children each.
6 times 12 is 72, 12 times 6.
But me, I got 6.
I got 6.
That's all there is.
That's all there is.
6 times 1 is 6.
6 times 1 is 6.
1 times 6.
1 times 6.
I got 6.
I got 6.
That's all there is.
Les agents immobiliers ne s'aperçoivent de rien. Les propriétaires non plus. Nous nous aimons dans leurs appartements. Nous y dormons. Nous y avons notre vie à deux. Elle en vaut bien une autre. Nous changeons tous les jours de quartier, de ville. Nous partons toujours au petit matin, après une petite toilette. Nous nous habillons. Je me maquille. Nous sortons. Nous prenons un bus ou un train. Nous mettons nos affaires à la consigne de la gare, puis nous arpentons le nouveau quartier, la nouvelle ville, et en fin d'après-midi, nous allons visiter des appartements, bras dessus, bras dessous, comme un jeune couple amoureux que nous sommes. Nous nous arrangeons pour nous voir proposer des visites libres. On nous confie une clé. Nous faisons quelques courses rapides, nous retournons à la consigne, nous prenons nos affaires, nous nous rendons au nouvel appartement, souvent vide, parfois encore un peu meublé. L'un de nous rend la clé à l'agence, pendant que l'autre reste dans l'appartement, s'installe, prend un bain si l'eau est chaude, prépare un repas froid sans vaisselle. L'eau n'est jamais coupée, l'électricité rarement, et il y a toujours un peu de lumière venue de la rue. Celui qui est ressorti rendre la clé rejoint l'autre. Si c'est un samedi, nous avons le luxe de 2 nuits.
J'étais attablée en salle de travail à la bibliothèque, tout entière dans ma lecture, bien contenue dans le rond éclairé de la lampe et dans le silence entretenu, dans ma bulle, comme on dit. Il a eu ce geste d'ombre sur moi. Il a fait ce que je déteste, ce que je n'ai jamais laissé personne faire avant lui, lire par-dessus mon épaule. Je ne sais pas pourquoi, cette fois, ça ne m'a pas gênée. Je ne l'ai pas regardé. Passé un tout petit temps d'arrêt et de surprise, j'ai recommencé à lire, et lui de même, derrière moi, debout, après avoir eu cette délicatesse de s'écarter juste de quoi me redonner suffisamment de lumière et sans jamais salir le silence. Ce silence de bibliothèque fait de petits bruits de papier, de chaises à peine poussées et de pas chuchotants. Ses mains se sont posées de part et d'autre des miennes qui tenaient le livre. Ses bras tendus ont fait comme des barrières de protection pour mon espace, cet espace de lecture jalousement épousé, notre espace désormais. Et nous avions sans voir nos yeux les mêmes regards, les mêmes pauses. Même arrêt des virgules, même fin de phrase. Je sentais en tournant la page qu'il était arrivé en bas d'elle. Nous lisions au même rythme. Et depuis, nous avons veillé à garder ce rythme, même quand ça ne va plus trop entre nous. Nous lisons toujours ensemble. Et si nous nous manquons de quelques lignes, nous nous attendons.
Elle habite une maison au bord de la mer, au bout d'une route inondable à marée haute. Deux fois par jour, la nature ferme ses portes. Elle fait disparaître la route. Je ne peux venir la voir qu'à marée basse.
Je la croise tous les soirs dans le grand escalier qui relie la ville basse à la ville haute. Cet escalier qui n'en finit pas et que je maudissais pour ça. Mais depuis qu'elle le descend, tous les soirs, au moment où moi je le monte, je n'attends que ça, toute la journée, l'heure de l'escalier. Je ne traîne plus jamais au travail comme la solitude m'en avait donné l'habitude. Elle aussi, elle est toujours à l'heure, parfois essoufflée, échevelée et encore plus belle. Et je ne sais pas si elle s'est dépêchée pour ne pas me manquer ou si elle a eu une dure journée.
Elle est professeure en collège. Pour se faire entendre dans une classe remplie d'élèves bruyants, elle a posé sa voix différemment depuis des années. Elle l'a fait progressivement, d'abord en tâtonnant et sans même s'en rendre compte. En poussant la glotte vers le haut pour parler à son petit monde agité, elle fait résonner les fosses nasales, le sinus, toute cette partie du visage que les chanteurs lyriques appellent la mascara. Elle est ma femme au masque. J'aime tellement sa voix. Je suis sensible à tous les sons, je suis technicien de studio. J'ai entendu sa voix se transformer petit à petit. Quand elle fait court, le volume de sa voix augmente sans qu'elle ait besoin de crier. Elle se renforce dans les moyens aigus. Le spectre s'enrichit et le son en devient plus présent. Elle module la voix dans le registre selon qu'elle est à la maison ou en classe. Quand elle rentre le soir, elle a parfois encore sa voix de travail, plus puissante que l'autre, et puis elle l'ajuste. Elle prend sa voix de nous.
Habite une maison au bord de la mer, au bout d'une route inondable à marée haute. Deux fois par jour, la nature ferme ses portes. Elle fait disparaître la route. Je ne peux venir la voir qu'à marée basse.
Petite vierge aux doigts menus, ange nu, révélant l'existence d'une fête mystérieuse et divine et d'un divin mélange des genres et de assoiffé de tous les torrents d'hiver, je faisais rimer le boudoir et le rimmel et le norrois et le bordel de toutes les rimes en oire. Et j'ai trimé, j'ai pillé mes rêves d'idéal pour t'habiller et t'animer de mes natures mortes et te couvrir de nudité, de thune et de nuit et te voir entièrement dans le bal accrochant à ton tourbillon de faune mon rêve secret d'élection. Plongé dans la rivière et noyé sous les draps, je ne sais où tu voles si tu piques. Nous nous sommes aimés dans les peupliers, dans la violence que le printemps imprime au premier tableau, dans les comètes et dans l'ordre oublié du désir que l'on ne peut briser. Loin sur l'eau, et marié l'aube et le soir, et réuni en une seule extase tous les oiseaux.
Au début, nouvelle et confuse, je me suis laissée tomber dans les bras qu'il venait d'ouvrir pour moi. Je n'étais entrée en maison de retraite que sous la pression de mes enfants. Je me sentais perdue, je me sentais trahie. Il était là, il me réconfortait. Il me proposait une histoire d'amour consolante, à cet âge où je croyais avoir tout oublié de l'amour. Quand j'ai retrouvé mes marques, il m'a quittée. Je n'avais rien oublié de l'amour, ça faisait toujours aussi mal. Il s'est tourné vers une pensionnaire qui commence à avoir des signes de démence, avec des troubles de la mémoire. Une aide-soignante m'a demandé d'arrêter de pleurer. Elle m'a dit qu'il n'en valait pas la peine. Elle le connaît depuis longtemps. Il ne s'attache qu'à des femmes désorientées. Il veut qu'elles aient besoin de lui. Quand elles se remettent un peu, comme vous, il les abandonne. C'est signe que vous allez mieux.
Nous chahutons dans la baignoire. Elle me reproche en riant de mettre de l'eau partout, mais ce n'est pas le moment de parler. Elle avale le petit morceau de savon que j'ai fait glisser à toute vitesse dans son cou. Après un silence inquiet, elle se remet à rire en faisant des bulles par la bouche et le nez. Je l'embrasse pour les éclater et partager son rire.
On va célébrer. Je ne sais pas quoi, mais c'est beau de célébrer quelquefois. Un chant célébratif. 1943, l'Italie encore divisée en deux, il y a la résistance au nord, mais la première copie d'un journal pour les femmes arrive quand même au nord, encore clandestine, et les femmes prennent cette première copie dans leurs mains et sont ravies. C'est vrai qu'elles ne savent pas lire, mais ça ne fait rien. Beaucoup d'entre elles apprennent à lire justement sur la première copie du journal des femmes. Elles sont si contentes qu'elles mettent cette copie de journal dans un cadre. C'est là que je l'ai trouvée, à Mantova, nella cascina, sur le réfrigérateur. La première copie du journal des femmes, à droite un autre cadre, avec Jean XXIII, le pape buono. À gauche, un autre cadre, il y avait Staline. Tous les trois faisaient beaucoup d'œil. Et la vieille femme qui m'avait fait voir cette préciosité m'a dit, nous étions si émus, mais si contentes que nous avons voulu remercier et célébrer en inventant une chanson. Et la voilà. Ignoranti, senza scuole, calpestate dai padron, noi eravam la plebe della terra, ma risaia come in prigione. Noi
assis en face de moi dans le tram. Casque audio sur les oreilles, il dessine. Il tient plusieurs crayons de couleur dans une même main, réunis en bouquet. Sourd à l'extérieur, mais pas aveugle, il fait, il me semble, le portrait de cette petite fille, debout à côté de moi. Elle a un visage taché, très beau, un masque de pigmentation sous les yeux, couvrant presque entièrement ses joues. Ce masque brun sur sa peau très pâle ressemble aux taches que nous font deviner les psys, à un loup de carnaval qui serait tombé sur ses pommettes. Elle semble gênée, on doit beaucoup se moquer d'elle à l'école. Il me sourit comme si j'étais complice de ce dessin, un vol de disgrâce. Nous devons être les seuls à la trouver si belle. Quand la petite fille descend, je m'approche de lui et je m'autorise, puisqu'il m'a souri, à regarder son carnet de croquis. Il n'a pas dessiné le visage de la petite fille, mais le mien, mon visage quelconque.
Il avait l'air heureux avec moi dans le musée. J'aimais le voir comme ça, enthousiaste, joyeux. Ce n'était pas si souvent. Ce jour-là, on aurait dit qu'il l'oubliait enfin, cette fille qui le rendait encore si triste. Celle d'avant moi, celle dont je n'arrivais pas à le consoler. Les photos exposées lui plaisaient. Il me les montrait et il me disait « Regarde !» En sortant, il avait acheté une carte postale reproduisant une des photos. La caresse d'une main blanche sur un torse légèrement plus sombre. À l'hôtel, pendant que je dormais à ses côtés, il avait écrit au dos de cette carte. Et dès le lendemain, il l'avait envoyé à celle qu'il aimait toujours.
Thank you.
Avant de rentrer du travail, elle se change et se nettoie au vestiaire de l'atelier. Elle enlève son bleu, qui est vert. Elle se passe un gant sur le visage, se lave les mains et les avant-bras, se brosse les cheveux. Elle ramène quand même des odeurs de bois à la maison et parfois, oublié derrière une oreille, un copeau d'aulne, de chêne, de hêtre, de bouleau. Mais c'est dans sa bouche surtout que je goûte aux essences, parce qu'elle a pris cette drôle d'habitude, dans le doute des parfums, des couleurs et des stries, de mâchouiller le bois pour le reconnaître.
Meine Mutter wollte mich anfangs Dagmar nennen. Da bin ich ja sehr froh, dass sie das nicht gemacht hat. Das war, ich bin ja geboren 43, das war ja noch in der Nazi-Zeit. Da war natürlich Dagmar eine sehr sichere Sache, dass sie mich dann ausgerechnet Hanna genannt hat. Ein Name, der mich später eigentlich sehr weit getragen hat, weil viele gedacht haben, vielleicht ist sie auch jüdisch. Oft ist mir der Name zurückgekommen mit einem H wieder am Ende. Das ist ja schon von der Schreibung sehr schön. So war es aber nicht, aber das fand ich doch sehr mutig, dass sie damals in der Zeit mich Hanna genannt hat. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich sie gefragt habe, ach, da gab es eine Hanna, die war so schön. Aber ob das alles war, weiß ich nicht. Jedenfalls, der Name hat mir immer gefallen.
Le monde, c'est comme délavé. Je venais de mettre mes lentilles, je les ai retirées, je les ai remises. Rien à faire, tout est resté inaccessible, même en clignant des paupières. Les choses se dérobaient. Il me semblait que la réalité pleurait, ou bien c'était moi, mais quelque chose entre le monde et moi, une eau, un trouble, m'empêchait de voir clairement. J'ai pensé que mes lentilles étaient sales, je les ai nettoyées, puis remises à nouveau, et à nouveau, la buée du monde. Et puis je l'ai entendu se lever, lui que je connaissais depuis peu, et je me suis souvenu qu'il portait aussi des lentilles. J'avais mis sa vue, qui ne s'accordait pas à la mienne.
On dit que Lazare et Cécile se sont enfuis cette nuit. Que la lune docile jusqu'au matin n'a pas lui. On dit qu'un foulard de brume fit pour elle un voile blanc, fit à Lazare un costume tissé de nacre et d'argent. On le savait au village que Cécile allait souvent rêvasser dans les herbages et danser avec le vent. On riait de cela. Sans amis, sans fiancé, qui rôdait près de la mare et n'allait jamais danser. On dit que Lazare et Cécile ont un soir changé d'avis. C'était pourtant pas facile de se cacher près d'ici. Ils ont joint leur solitude, ils ont partagé le vent, prenant la douce habitude de s'aimer. Au bout de quelques semaines, il parut aux indiscrets que dans sa jupe de laine, Cécile s'alourdissait. Alors il fallut les entendre tous crier au déshonneur. Mais Cécile, qui est tendre, a préféré le bonheur. On dit que Lazare et Cécile se sont enfuis cette nuit. Il y a bien des imbéciles pour en sourire aujourd'hui. Pourtant, jusqu'au bout des saules, ils se sont tenus la main, puis épaule contre épaule, ils ont suivi leur chemin. On aurait voulu peut-être voir Cécile dans l'étang et sur la branche d'un hêtre trouver Lazare pendant. Sans gêne, on aurait pu suivre leur cortège en soupirant. Mais ceux que l'amour délivre préfèrent s'aimer vivant. On dit que Lazare et Cécile se sont mariés cette nuit dans la
heures d'après minuit. On dit qu'au creux de la mare, la lune en deux se brisa, formant deux anneaux bizarres qu'ils se glissèrent au doigt. Lorsqu'ils ont couru ensemble, le vent leur fit un manteau. Moi qui ne dormais pas, j'en tremble de les avoir vus si beaux. Toi Cécile, toi Lazare, apprenez à votre enfant que jamais on ne sépare ceux qui s'aiment simplement, que jamais on ne sépare ceux qui s'aiment simplement.
Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi, je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non, mais qu'est-ce qu'il s'imagine? J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable, il ne l'est pas.
Ah, ah